en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, messieurs, je voudrais vous remercier de m'accueillir en réalité pour la deuxième fois. Et je vois dans le sujet qui m'a été proposé la marque de l'affection exigeante que me porte Michel Pébreau, puisqu'après m'avoir demandé il y a quelques années de venir vous parler d'un sujet que je connaissais un peu, qui tournait autour de l'assurance et du risque, il vient me demander aujourd'hui de parler d'un sujet que je ne connais guère, qui est la fiscalité, qui plus est en le formulant d'une manière qu'il est à peu près impossible de résoudre. Parce que comment réorganiser notre système de prélèvements obligatoires pour améliorer rapidement et durablement la compétitivité de notre économie et de notre territoire et réduire notre chômage à pression fiscale inchangée ? Donc, formulation exigeante, sujet quasi impossible, je réclame votre indulgence et je suis allé chercher des précédents. Parce qu'il faut toujours, quand on veut rassurer un auditoire, s'appuyer sur un précédent, surtout dans un pays cartésien. Alors j'en ai trouvé un absolument merveilleux, qui est que dans cette salle, aux premières années, même dans les premières semaines de ce siècle, le 22 janvier 2001, Michel Albert, pour qui nous avions, je pense, pour ceux qui l'ont connu, une amitié et un respect extrêmement profond, donnait devant votre assemblée une communication sur le thème « Le système fiscal français ». Déjà. Et il est donc extrêmement intéressant de relire cette communication. À vrai dire, si je ne savais combien votre mémoire est précise et si j'avais voulu m'exonérer de la charge de réfléchir un peu au sujet, j'aurais pu reprendre la communication de Michel Albert tant elle était pertinente et toujours d'actualité. Je me contenterai donc simplement de vous en lire quelques extraits. Sur l'efficacité du système fiscal en général, il disait « L'ensemble des prélèvements obligatoires de toute nature » au profit des administrations publiques, apparaît comme une sorte d'édifice labyrinthique. Une machinerie monumentale et passablement sclérosée, qui cependant, nolens volens, va devoir se réformer profondément dans les années qui viennent. Il aurait dû dire dans les siècles qui viennent, au rythme auquel nous l'avons transformé. Sur son efficacité, il écrivait pour 1 000 euros d'impôts encaissés, les coûts personnels et de fonctionnement de l'administration fiscale sont trois fois plus élevés en France qu'aux États-Unis ou en Suède, et moitié plus qu'au Royaume-Uni. Il écrivait « L'instabilité de la règle fiscale en France est l'un des pires défauts de notre système. Elle aggrave les inconvénients de la complexité, qui n'est pas seulement coûteuse. Elle rend l'impôt incompréhensible et s'oppose donc à son acceptation démocratique. » Il écrivait enfin sur son immobilisme. Pour le reste, la caractéristique principale de la fiscalité française est sa relative sclérose. La France est le seul pays développé à ne pas avoir entrepris la grande réforme libérale des années 80-90. Et il concluait, un bon impôt doit comporter une assiette large, des taux peu élevés et bénéficier d'une grande stabilité des règles. Aucune de ces phrases n'a vieilli. C'était il y a 16 ans. C'est dire l'ampleur du sujet auquel nous sommes confrontés. Alors, je disais tout à l'heure que l'équation posée par Michel Pébreau, polytechnicien, n'est pas facilement solvable. Par un affreux HSC, par un affreux HSC qui, au fond, a tendance à considérer que pour retrouver de la croissance et réduire le chômage, il faudra impérativement résoudre et faire baisser, résoudre le problème, faire baisser les prélèvements obligatoires. Je crois que nous n'y échapperons pas. Il faudra évidemment avoir conscience qu'il faudra faire baisser la dépense publique dans une proportion équivalente ou légèrement plus rapide. Mais je ne suis pas, pour ma part, convaincu que l'on puisse faire redémarrer la croissance et réduire le chômage à taux de prélèvements obligatoires inchangés. En revanche, la formulation de la question a le mérite de nous placer en face de ce que sont les vrais dilemmes. Et pour comprendre ce que sont ces vrais dilemmes, il faut à la fois se reposer la question, et pardon de mon approche simpliste, parce que certains d'entre vous, je me tourne vers Jean Tirole, Michel Pébreau et d'autres, sont infiniment plus compétents que moi sur ce sujet. Il faut connaître un peu, la fiscalité, je ne la connais pas bien. Il faut regarder ce que sont les grands principes, il faut regarder d'où nous partons, et il faut regarder ce que sont, dans l'économie du premier quart de ce siècle, les priorités qui sont celles de notre pays si effectivement la croissance et la réduction du chômage sont des impératifs de premier ordre. Alors au fond, un système fiscal de manière simpliste, et j'espère compréhensible, il peut avoir trois objectifs. L'objectif de nourrir les recettes qui vont permettre de financer l'action publique. Comment trouver un flux de recettes aussi stable que possible et aussi neutre économiquement que possible. Il peut avoir un deuxième objectif qui est un objectif de redistribution. Et là, c'est un objectif qui s'ajoute et c'est un objectif qui devient sensiblement plus politique. Il ne s'agit plus seulement de financer ce que vont être les dépenses, il s'agit d'utiliser l'arme de la recette pour influer sur la redistribution des richesses et des revenus. Il peut enfin avoir un troisième objectif qui est celui de modifier les décisions des agents économiques et d'impacter sur ce que va être l'allocation entre le capital et le travail, ce que va être le choix entre la consommation et l'investissement, sur ce que va être le choix entre tel et tel secteur industriel ou des services. Le premier objectif peut être considéré comme presque neutre, les deux autres ne le sont pas, ou le sont beaucoup moins. Ensuite, une fois que l'on a défini ces objectifs, il faut regarder sur quel matière ces objectifs peuvent s'appuyer. Et là-dessus, au fond, et pardonnez-moi encore une fois d'être extrêmement simplificateur, on peut vouloir taxer les éléments qui contribuent à la production de richesses, essentiellement deux, le capital et le travail. On peut vouloir taxer à un stade ou à un autre de leur production la circulation de ces richesses, la consommation des ménages, la consommation des entreprises. On peut vouloir, quand on taxe le capital, taxer le stock ou taxer le produit de ce capital, son revenu, son rendement, son efficacité. Quand on taxe le travail, de manière générique, on peut décider de taxer l'individu ou de taxer l'entreprise qui utilise ce travail. Donc un certain nombre d'instruments et par conséquent un certain nombre de facteurs de choix s'offrent à vous. Ces facteurs évoluent en fonction de ce qu'est l'évolution de l'économie. Si l'on regarde la fiscalité de l'ancien régime, même du très ancien régime, j'allais dire, la gabelle qui a provoqué bien des révoltes, bien des difficultés, qui a généré bien des trafics, la gabelle était un impôt qui était considéré comme pertinent parce qu'il portait sur le sel, qui avait une valeur économique forte, puisque dans une époque dans laquelle la conservation des aliments et donc la conservation de leur valeur était quelque chose de difficile, le sel jouait un rôle particulier. Un impôt sur le sel aujourd'hui n'aurait probablement plus la même pertinence, même s'il existe toujours une TVA sur le sel, n'aurait plus la même pertinence que ce que cet impôt pouvait avoir au XVIIIe siècle. En revanche, nous voyons bien aujourd'hui que sur une source de création de richesses nouvelles qui circule à une vitesse comme peu de choses ont circulé depuis que l'activité économique existe, qui circule à une ampleur qui est inégalée, chose qui s'appelle les données, l'ensemble des systèmes fiscaux, l'ensemble des gouvernements sont au fond relativement mal à l'aise et regardent cet élément un peu comme la poule regarde le couteau pour savoir si il est légitime ou illégitime de taxer un bien immatériel qui circule, qui est incontestablement créateur d'informations, créateur de richesses, et pour savoir à quel niveau, chez qui, est-ce que c'est chez le producteur, est-ce que c'est chez l'utilisateur, est-ce que c'est au niveau national, est-ce que c'est au niveau européen, est-ce que c'est au niveau global qu'il faut taxer ce bien. Je ne vous parlerai pas de la taxe sur les transactions financières qui correspond également à l'idée que, au fond, quand les flux sont importants, quand les nombres ont l'air gigantesques, opérer un petit prélèvement subreptice peut après tout procurer de grosses recettes sans être nuisible économiquement. Donc, il est possible de voir, quand on a dit cela, que la construction d'un système fiscal va dépendre à la fois de la manière dont on va jouer sur ces différents tuyaux d'orgue et de ce qu'est l'économie d'un pays, l'économie d'une zone économique, à un moment ou à un autre. Si on analyse le système français à l'aune de ces critères, que constate-t-on ? Et je vais essayer de ne pas vous noyer sous les chiffres, mais de façon synthétique, que peut-on dire ? Nos prélèvements obligatoires ont atteint un niveau qui est trop élevé depuis maintenant longtemps et de manière croissante si on le compare à celui des économies ouvertes qui nous entourent. Les assiettes de certains de ces prélèvements sont des assiettes qui n'ont pas encore les caractéristiques de la gabelle, mais qui, dans un certain nombre de cas, s'en rapprochent. Il n'est qu'à se reporter au sujet des taxes locales et du débat récurrent, mais auquel il n'est jamais apporté de solution, qui concerne les valeurs cadastrales. La difficulté à les bouger crée une incapacité à avancer. Cette incapacité à avancer aggrave le problème et nous nous enfonçons dans l'insoluble. Quand nous avons des assiettes qui reposent sur des flux économiques relativement pertinents, et je pense qu'on peut ranger la consommation dans cette catégorie-là, et donc la TVA, nous avons été à la fois les inventeurs de cette pièce de vaisselle qu'est l'assiette et ses principaux destructeurs parce que nous nous sommes acharnés à la trouer, cette assiette. Nous sommes aujourd'hui en Europe le pays qui a à la fois le plus de taux et la recette moyenne, si on peut dire. Nous sommes dans la moyenne, nous avons 4 taux différents, nous avons une recette moyenne à peu près comparable aux autres, et nous avons l'impression que c'est un impôt qui écrase la consommation. Impôt d'ailleurs, quand on le regarde dans le détail, dont la logique m'échappe. Il se trouve que je suis administrateur de Nestlé, que je me suis donc intéressé à la taxation du chocolat. Eh bien, le chocolat, selon la forme sous laquelle vous le consommez, peut être taxé à chacun de ces 4 taux. Parce que, selon la transformation qu'il a subie, vous serez soit au taux super réduit, soit au taux normal. Il ne me semble pas y avoir une logique économique extraordinairement forte derrière cette multiplicité de taux. Donc derrière le fait que ces assiettes sont trouées, arrive une autre difficulté, c'est que lorsque les assiettes sont trouées, leur rendement baisse, et que par conséquent la tentation est forte, lorsque l'impôt n'est plus proportionnel mais progressif, d'en accroître la progressivité. Et nous sommes aussi, si l'on nous compare à l'ensemble des pays européens, un des pays dans lesquels les taux marginaux, lorsque les impôts sont progressifs, sont parmi les plus élevés. Donc assiette trouée, taux marginaux excessifs. On peut y rajouter le fait que nous sommes aussi, et je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure, parmi ceux des pays d'Europe qui ont le plus de taxes et d'impôts, et parmi ceux-ci, le pays d'Europe qui a le plus de taxes et d'impôts, producteurs de rendements qui sont des rendements que je ne qualifierai pas de risibles, mais que je qualifierai certainement de dérisoires, sans arriver jamais à régler ce sujet. Nous avons également, puisque cette complexité se nourrit d'elle-même, une situation dans laquelle le code fiscal est en termes de progression de sa densité, l'équivalent à la fiscalité, ce que le code du travail est à l'emploi. Donc un maquis de textes qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus lourds, de plus en plus incompréhensibles. Je vous donnerai dans quelques minutes les chiffres et vous verrez que tout ceci est formidable. Donc le système, il est instable, inefficace, illisible. Et pourtant, ce pays dans lequel, depuis l'origine des temps, les Français se plaignent de l'impôt et font même parfois des révolutions ou des jacqueries à cause de l'impôt, est un des pays du monde dans lequel le taux de recouvrement est le plus élevé. C'est-à-dire que paradoxalement, malgré l'extrême complexité, l'extrême illisibilité, parfois l'extrême inefficacité économique et l'extrême injustice de ce système, en réalité, le taux de consentement à l'impôt est assez élevé et est même très élevé, puisque le recouvrement est un recouvrement qui nous classe parmi les champions du monde. Alors, si on essaye de regarder au fond, quels sont les chiffres? Je vous disais tout à l'heure des prélèvements qui ne cessent de croître. Lorsque Michel Albert vous parlait, les prélèvements obligatoires étaient aux alentours de 43-44% du PIB. Ils sont aujourd'hui, et ce niveau était déjà considéré comme excessif, ils sont aujourd'hui aux alentours de 46, donc ils ont continué d'augmenter. Lorsqu'il vous parlait, nous étions les sixièmes en Europe, donc nous n'étions pas sur le podium. Nous avons aujourd'hui la médaille d'argent. Donc cette performance s'est aggravée, je dirais. Nous n'avons devant nous que le Danemark. Peut-on pour autant dire que l'ensemble des prélèvements obligatoires est efficace? Certains peut-être, d'autres j'en doute. Il y a parmi les prélèvements obligatoires des dépenses de formation professionnelle. Alors j'ai pris, pour vous choquer, le chiffre le plus extrême. La France dépense 32 milliards d'euros par an au titre de sa formation professionnelle. 5 chômeurs sur 6 ne reçoivent aucune formation. Donc quand on explique qu'il n'y a pas de vecteur d'amélioration, je pense qu'on ne regarde pas ce sujet-là, ou en tout cas pas avec assez d'attention. L'augmentation des dépenses fiscales, c'est-à-dire le système du droit de grâce venant tempérer la guillotine, ce qui est une des figures que nous aimons bien, c'est-à-dire nous créons un système qui est un système dans lequel les taux marginaux sont excessifs, ou les prélèvements excessifs, mais qui est tempéré par un certain nombre d'exceptions, qui sont des droits de grâce discrétionnaires et par conséquent obscurs et au bout d'un certain temps difficilement légitimes. Le montant des dépenses fiscales progresse beaucoup plus vite que la dépense publique, qui elle-même progresse trop vite. Je me suis contenté de regarder ce qu'avait été l'évolution de la dépense publique entre 2012 et 2016. Elle a progressé de 6%. Dans le même temps, et elle s'élevait en 2016 à un peu plus de 1250 milliards d'euros. Dans le même temps, la dépense fiscale, c'est-à-dire l'exception obscure à la règle fiscale, a progressé de 21%. Donc c'est la marque du caractère insupportable du système, qu'on ne peut plus gérer que par des exceptions. Le nombre trop élevé de prélèvements obligatoires, eh bien, nous avons probablement, selon la manière dont on les comptabilise, plusieurs centaines de prélèvements. En tout cas, il y a une certitude. Il y a une étude européenne sur le nombre de taxes dont le produit est inférieur à 100 millions d'euros, à rapporter aux 1250 milliards d'euros de dépenses publiques et à l'objectif principal ou primordial qu'il me semblait falloir assigner au début de cette conversation à l'impôt, qui est de collecter des recettes, si possible, de manière efficace. Les Pays-Bas n'ont pas de taxes qui leur apportent moins de 100 millions d'euros, ni le Royaume-Uni, d'ailleurs. L'Allemagne en a 3, la Belgique en a 17, sans doute la Wallonie, l'Italie en a 24, la France en a 179. Et il y a eu des tentatives deux législatures précédentes pour essayer de simplifier cela, avec le succès que nous connaissons. On pourrait dire la même chose, et pardonnez-moi, je vous ai dit que je n'étais pas un spécialiste, sur le nombre d'organismes chargés de recouvrer l'impôt et les prélèvements obligatoires. Nous sommes, là aussi, les champions d'Europe. Si nous regardons parmi les autres défauts de notre système, je vous ai parlé tout à l'heure en détail de la TVA, on peut parler de ce qu'est l'imposition du capital. L'imposition du capital, que ce soit sur ses revenus ou sur ses flux ou sur son stock, n'a pas cessé de s'aggraver. Et nous avons aujourd'hui, si nous nous comparons à la moyenne européenne, des prélèvements sur le capital qui sont aux alentours de 10% du PIB, là où nos voisins sont entre 6 et 7. Et pardonnez-moi encore si je ne suis pas précis au chiffre après la virgule près, mais c'est l'ordre de grandeur. Ceci dans des économies ouvertes, dans lesquelles la mobilité du capital est un élément que l'on doit prendre en compte, si l'on veut disposer des moyens nécessaires au contrôle ou au moins une certaine influence nationale sur ces structures de production, et si l'on veut être capable de mobiliser les capitaux nécessaires à la modernisation de l'ensemble de ce système productif. Si vous regardez ce que sont les prélèvements sur le travail, nous avons une politique qui nous distingue de nos voisins, parce que nos prélèvements sur le facteur travail sont plus élevés, parce que le travail finance un certain nombre de dépenses publiques, notamment, par exemple, la politique familiale dont l'assiette ne devrait pas simplement être, ou ne devrait pas du tout être le salaire, et la structure que nous avons donnée à nos charges sociales et aux exonérations que nous avons successivement consenties pour tempérer les effets les plus absurdes d'accroissement continu de charges, ont créé une économie, finalement, qui est une économie qui a, quelque part, une préférence forte pour les bas salaires, au motif que alléger les charges sur les bas salaires est ce qui a l'impact le plus rapide sur le chômage. On a perdu de vue le fait qu'un chargement, que des prélèvements obligatoires excessifs sur les salaires plus élevés, qui sont en général la marque du travail qualifié, dans un monde dans lequel le capital et les talents sont de plus en plus mobiles, allait créer une situation où, en perdant du travail qualifié de façon explicite avec des gens qui partent, et de façon implicite avec des entreprises qui ne prennent plus de décisions de localisation chez nous, Nous avons perdu de vue le fait que ceci aurait un impact majeur sur nos structures productives, dans l'industrie comme dans les services, dans le matériel comme dans l'immatériel à terme. Pour vous donner un exemple simple, il est plus coûteux d'employer un ingénieur aujourd'hui en France qu'en Allemagne pour l'entreprise qui l'emploie. Alors oui, il y a aujourd'hui un niveau de charge relativement réduit sur les bas salaires, mais aussi longtemps qu'au niveau du travail qualifié, les charges qui pèseront sur ce travail, employeurs et salariés confondus, seront plus fortes en France que dans un certain nombre d'économies qui nous entourent, il ne faudra pas s'étonner de voir ceux des agents économiques qui ont la liberté de localiser leurs installations nouvelles, leurs équipes nouvelles dans l'endroit qui est le plus attractif pour eux, il ne faudra pas s'étonner qu'ils prennent la décision ou les décisions de ne pas rester chez nous. C'est une des explications, je pense, du recul de la place du secteur industriel dans notre économie. Mais c'est aussi en train de produire des ravages dans les services qui, par ailleurs, sont affectés pour les services financiers qui sont parmi les plus mobiles du monde, par un autre élément qui est qu'à des charges normales déjà excessives, on a rajouté une taxe sur les salaires qui croît avec la sophistication du job occupé. Et donc on a créé un système dans lequel, effectivement, notre ennemi, c'est la finance, puisque plus un job est sophistiqué dans la finance, moins il a de chances de se trouver localisé en France du fait de l'addition des charges normales et d'une taxe sur les salaires qui très rapidement atteint 20% du salaire considéré. Alors, je pourrais continuer avec tout un tas d'autres exemples. Je voudrais simplement essayer de reprendre ce que sont les grands éléments. Nos prélèvements obligatoires sur la consommation en pourcentage du PIB sont de l'ordre de 11%. Ça n'est pas très différent de ce qu'ils sont dans le reste de l'Europe. Nos prélèvements sur le travail sont à un peu plus de 24, là où la moyenne européenne est à environ 20. Nos prélèvements sur le capital sont à plus de 10, là où la moyenne européenne est là où je le disais tout à l'heure. Donc on voit bien, et ceci, pardon, je devrais encore rappeler, dans un système dans lequel nous avons un niveau de dépenses publiques supérieur à tout le monde et un niveau de déficit qui est parmi les plus élevés. Donc on voit bien qu'on est dans un système qui est d'une complexité extrême, qui économiquement a atteint les limites de son efficacité, qui politiquement est de plus en plus difficile à justifier parce que la multiplication de règles dotées d'exceptions aux règles ou auxquelles s'ajoutent des exceptions aux règles rend le système de plus en plus injustifiable. Je vous parlais tout à l'heure de la complexité du code. L'ensemble de notre réglementation fiscale, c'était, quand Michel Albert vous parlait, un peu plus de 2000 pages. Nous en sommes à 3356. Au rythme auquel ça va, nous aurons, la fin du quinquennat du successeur de l'actuel président de la République, dépassé la hauteur du Mont-Blanc. Il y aura plus de 4807 pages de réglementation fiscale. 20% des articles du Code sont modifiés chaque année. 20% des articles du Code fiscal. Ceux d'entre nous qui étaient dans une carrière administrative au siècle dernier, pas il y a si longtemps, mais moi je me souviens de la direction du Trésor et du service de la législation fiscale avec émotion et tendresse des années 80, les articles fiscaux dans les lois de finances étaient l'exception. Aujourd'hui, ils sont souvent l'essentiel. Donc sommes-nous dans un système soutenable quand il contient toutes ces caractéristiques? Il me semble que la réponse est à l'évidence non, et que le dilemme en face duquel nous sommes placés est un dilemme extraordinairement compliqué. Parce que ce qui bloque le redémarrage de la croissance dans notre pays. Ce qui nous empêche de faire baisser le taux de chômage, c'est la combinaison de dépenses publiques très excessives, de rigidité dans un certain nombre de secteurs, le marché du travail bien sûr, mais aussi la réglementation fiscale. Si nous voulons retrouver une certaine flexibilité, il y a à la fois la nécessité de ne pas croire au grand soir fiscal parce qu'il serait beaucoup trop difficile à mettre en œuvre, mais aussi la nécessité quelque part de couper le nœud gordien. Parce que ça ne peut pas continuer comme cela. Donc il faut essayer de repartir sur quelles sont les choses qu'il faut faire tout de suite et quelles sont les choses qui prendront davantage de temps mais qu'il sera nécessaire de mettre en œuvre progressivement. Alors là où je me distinguais de l'énoncé du sujet de la copie tel que défini par Michel Pébrot, c'est que je crains malheureusement qu'on ne puisse pas relancer la croissance et l'emploi si on ne fait pas quelque part, tout de suite, baisser quelques impôts qui sont des freins objectifs aujourd'hui à la croissance et qui, quelquefois même, sont des accélérateurs de fuite de capitaux ou de talents. Je pense qu'il faudra baisser la fiscalité en même temps que l'on commence à réduire la dépense publique, en disant néanmoins qu'il me semble absolument impératif d'engager un effort vigoureux de baisse de cette dépense publique, parce que c'est le sujet qui fait que nos partenaires ne nous accordent plus aucun crédit. Notre incapacité à faire les réformes et notre incapacité à faire baisser la dépense publique en termes réels. Alors ensuite, par où commencer ? Je pense que parmi les choses qu'il faut essayer de faire immédiatement, il faut essayer de déverrouiller les endroits dans lesquels les dommages sont les plus rapides, ont tendance à s'aggraver et pourraient devenir irrémédiables. Et là-dessus, je pense qu'il faut très vite agir sur la fiscalité du capital, parce que c'était répandu autour des débats électoraux d'il y a 5 ans, l'idée que nous sommes parmi les seuls à avoir, qui est qu'il faut taxer les revenus du capital comme les revenus du travail. Cette idée a généré des dégâts considérables. Une façon très symbolique de le dire, c'est les capitaux qui ont quitté la France depuis le début de ce siècle, du fait d'un impôt sur la fortune excessif, représentent probablement pas loin de 10 fois le capital de la BPI, le montant du capital de la BPI, que l'on présente comme l'alpha et l'oméga de la structuration de notre tissu productif. Et ça continue. Bon. Donc, aménager la fiscalité du capital me semble être une nécessité impérative. Et donc, je pense qu'il faut supprimer le symbole coûteux qui est devenu l'ISF. Quoi qu'il puisse en coûter, si l'on peut dire sur le plan politique, c'est la clé à un moment critique pour conserver le capital d'un certain nombre d'entrepreneurs qui sont de véritables créateurs de richesses. La fuite ne va faire que s'aggraver parce que nous sommes au moment où un certain nombre de ceux qui pouvaient éviter cet impôt du fait de la non-taxation de l'outil professionnel sont en train de transmettre aux générations suivantes qui n'ont pas nécessairement les compétences pour diriger les boîtes. Si ces gens se trouvent devoir être soudainement soumis à cet impôt, ils partiront. Ils sont d'ailleurs déjà en train de partir. Le contrôle disparaîtra. Et moi, je préfère un pays dans lequel nous contrôlons, enfin, certains de nos concitoyens contrôlent nos entreprises plutôt que de voir les votes en Assemblée générale déterminés par les fonds de pension de pays étrangers. La deuxième chose sur les revenus du capital, il me semble impératif, en tout cas pour toutes les formes de capital mobile, que l'on revienne à ce qu'est la moyenne de nos voisins européens, c'est-à-dire 30%. Si l'on fait beaucoup plus, il ne faudra pas s'étonner de voir le capital mobile bouger. Ensuite, je pense qu'il faut regarder sur l'ensemble des charges qui touchent au travail et essayer de les alléger de manière entre guillemets, aussi intelligente que possible en sachant qu'on ne pourra pas tout faire tout de suite. Je crois qu'il y a un moment où il va falloir se poser de la question qui est celle de savoir si on réfléchit sérieusement à l'allègement des charges, sinon sur toute l'échelle des salaires, du moins, au moins, pour un niveau, jusqu'à un niveau de salaire qui couvre celui du travail qualifié, voire très qualifié, plutôt que de concentrer l'ensemble des allègements uniquement sur les bas salaires, au motif que ce sont ceux qui ont l'impact le plus élevé à court terme. Parce que c'est cette logique qui nous a enfermés dans la mécanique dans laquelle nous sommes. Alors ensuite, sur les modalités d'allègement de ces charges, je pense qu'il faut réfléchir, qu'il ne faut pas nécessairement les donner sans contrepartie, parce qu'un des éléments qui me frappe sur l'évolution de la compétitivité de notre pays, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé depuis 2010 en termes d'évolution respective des salaires et de la productivité, les salaires évoluent plus vite que la productivité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut baisser les salaires. Je dis que si on juge socialement nécessaire d'augmenter les salaires à un rythme qui est de l'ordre de 2,5% par an, alors il faut que les entreprises aient le courage de faire des réorganisations et éventuellement qu'on leur donne la flexibilité, mais c'est un autre sujet en matière de droit du travail, qui leur permettent de faire augmenter leur productivité à ce niveau-là. Je rajoute qu'un certain nombre d'entreprises peuvent probablement faire quelques efforts sur le niveau de leurs coûts salariaux, mais ça ne me semble pas être le sujet principal. Donc donner des allègements de charges, pour moi, il n'est pas absurde que ça s'accompagne de contreparties. Je préfère, parmi les mesures qui ont été évoquées, que l'on donne des allègements de charges sur le travail plutôt que de baisser. Si on a le choix, si on peut faire les deux, autant faire les deux. Mais si on a le choix, il me semble plus pertinent aujourd'hui de baisser les charges sur le travail que de baisser l'impôt sur les sociétés. Parce que baisser l'impôt sur les sociétés n'encourage pas nécessairement les dites sociétés à localiser leur outil de production chez nous. Et donc, il me semble qu'il n'est pas nécessairement absurde de commencer par une, je sais que c'est discutable, hein, mais par une baisse des charges sur le travail. Je pense en réalité qu'il n'est pas idiot d'augmenter, si l'on doit financer une partie de ces baisses de charges, et c'est là qu'on revient sur le sujet que dans lequel Michel voulait me verrouiller, si l'on veut basculer d'un impôt sur l'autre pour, je dirais, trouver une assiette plus raisonnable économiquement, basculer sur la TVA me semble être la raison, parce que d'abord, la TVA est un impôt qui taxe les décisions personnelles des individus. Et parce que c'est le seul moyen de faire contribuer dans un pays qui a un déficit commercial relativement significatif, c'est le seul moyen de faire quelque part contribuer les importations au financement de ce que sont nos besoins collectifs. Après tout, il me semble qu'il y a une alternative intelligente au acheter français, n'acheter que français, qui est, au fond, que l'impôt soit quelque part... c'est un impôt neutre entre importation, ou c'est un prélèvement obligatoire neutre entre importation et exportation, alors que les charges sociales sur le travail ne sont pas neutres entre travail français et travail chinois. Le travail chinois n'est pas taxé par les charges sociales françaises. Donc augmenter la TVA, si par ailleurs c'est compensé par une baisse des charges qui pèsent sur le travail, me semble être quelque chose qui est parfaitement explicable politiquement. Donc à court terme, voilà ce que seraient, entre guillemets, mes préférences. Ayant dit cela, je pense que ça ne dispense pas d'une réflexion de moyen terme. Que dans cette réflexion de moyen terme, il doit y avoir un aspect neugordien qui est que, franchement, 179 taxes qui rapportent moins de 100 millions, est-ce que quelqu'un, un jour, aura le courage de dire « ça suffit » et on remplace ça par une seule taxe, certes qui n'aura peut-être ni les mêmes assujettis, ni les mêmes, entre guillemets, bénéficiaires. Ces taxes, d'ailleurs, sont souvent, paradoxalement, des niches inavouées, parce qu'elles viennent financer un certain nombre de politiques économiques colbertistes honteuses qui contribuent à entretenir l'autofinancement de secteurs pour lesquels on peut s'interroger sur la légitimité d'un financement public. Donc je trouve que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut maintenir. Ça hyper complexifie le système pour un rendement qui est faible. Je pense que de la même manière, il faut quelque part être alexandriste sur les niches fiscales. Je crois qu'il ne faut pas essayer de les supprimer une par une, parce que comme je ne sais plus qui avait trouvé cette formule, j'avais trouvé merveilleuse, dans chaque niche, il y a un chien. Et donc, il faut se méfier parce qu'un chien peut mordre. Eh bien, il y a une bonne façon de faire sortir le chien de la niche, c'est de diminuer uniformément la taille de toutes les niches. Donc, plutôt que de s'attaquer uniformément à chacune, je pense que ça a d'ailleurs déjà commencé, qu'il suffit d'aller plus loin. Ben, au fond, pourquoi ne pas en plafonner le bénéfice global ? Je pense enfin, et c'est plus important, et c'est une réflexion qui sera nécessairement une réflexion européenne, qu'il faut à terme réfléchir sur ce que doivent être les vraies assiettes et ce que peuvent être les efforts de convergence et d'harmonisation. On parle des efforts de convergence en matière d'impôts sur les sociétés. Il est vrai que notre taux d'impôt sur les sociétés est plus élevé que d'autres, mais que nous avons aussi des abattements d'assiettes sous formes diverses et variées qui sont peut-être un peu plus importants que d'autres. C'est peut-être l'impôt sur lequel on peut progresser le plus vite en matière d'harmonisation. Mais il faut aussi que nous nous posions la question de savoir s'il n'y a pas, de la même manière qu'un jour on est passé de la gabelle à un impôt plus moderne, s'il n'y a pas, notamment autour de tout ce qui est circulation de biens immatériels, un impôt moderne à inventer et à inventer de manière européenne. Parce que c'est à l'évidence à ce niveau-là que la capacité à réfléchir sur des solutions intelligentes et la capacité à recouvrer de manière intelligente est la plus accessible. Et je terminerai en disant de la même manière que sur l'ensemble de ces sujets, nous ne pourrons le faire que si nous sommes capables et nous ne gagnerons l'attention de collègues européens que si nous sommes capables par ailleurs de délivrer ce qui est indispensable, c'est-à-dire une diminution de la dépense publique. Il y a peu de chances que nous convainquions les Allemands de s'engager avec nous dans une réflexion fiscale européenne, alors que nous avons une fenêtre, si nous faisons correctement les choses, pour embarquer l'Allemagne dans un certain nombre de réformes. Il y a peu de chances que nous les convainquions si nous n'avons pas fait des réformes de structure autres que fiscales, parce que pour eux, le sujet, dès qu'un Français politique ou haut fonctionnaire évoque le mot harmonisation fiscale, ils comprennent, ils veulent nous transférer leur système d'harmonisation, leur système fiscal qui ravagera notre économie comme Turenne avait ravagé le Palatinat. Donc il faut que nous montrions que nous sommes capables de considérer que l'impôt est quelque chose qui doit nous servir à créer de la recette en face d'une dépense publique qui diminue, mais pas quelque chose qui doit financer une dépense publique qui ne cessera pas d'augmenter. Je vais m'arrêter là. J'ai conscience d'avoir été en face d'un certain nombre d'entre vous qui sont infiniment plus compétents que moi, incomplets, probablement parfois inexacts, mais c'est une des figures d'un des pays fondateurs de l'Europe qui est la Hollande, qui est Guillaume le Taciturne, qui a dit au fond, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et c'est sans doute ce que pensait Michel Albert en 2000, ou en 2001, quand il a fait son exposé. Donc j'espère qu'en 2030, 31 ou 32, vous inviterez quelqu'un pour faire le même exposé, mais qu'à ce moment-là, quelque chose aura vraiment changé.